Donc voilà, le frère dit que comme c'est Pâques, que Dieu vous bénisse tous, comme le frère Franck va prêcher samedi dimanche, peut-être on peut se réunir, mais bon, c'est, on va voir. Voilà, on peut méditer de nous-mêmes. Donc on vit tous un moment de découragement en ce moment. On voit tout ce qui tourne autour de nous, tout ce qu'on vit. Mais néanmoins, ma fille m'a téléphoné, Jenna, elle me disait justement que là aussi, à Creffeld aussi, ils sont pas très bien, quoi. Ils se sentent pas très bien dans leur peau. Mais néanmoins, on a quand même la certitude que le Seigneur accomplit son œuvre. C'est pour ça que, même s'il y a ces hauts et ces bas, on peut dire comme ça, ces découragements autour de nous, Frère Salvatore, Dieu te bénisse. Donc, tout ça, ça nous fait toujours plus considérer la parole de Dieu, en fait. Donc, ça nous rapproche toujours plus de Dieu. Donc, d'un côté, les temps sont tristes, mais d'un autre côté, ces temps sont spéciaux. Parce que le Seigneur est en train de parler, toujours de manière toujours plus profonde à l'Église. Il parle de manière toujours plus profonde à son Église, à son épouse, toujours plus proche. Et il révèle toujours plus sa parole. Et voilà pourquoi le diable, c'est pour ça que le diable nous attaque encore plus. Donc d'un côté, il y a l'affliction à cause de ce qu'on vit. On est bloqué à la maison, dans nos familles, etc. Mais aussi, on vit aussi la même chose partout. Même Frère Franck vit aussi ça. On est tous sur la même barque, disons. C'est une grande barque, disons, la barque, comme la barque de Noé, disons. Et le Seigneur nous mènera à l'autre rive. Donc continuons à prier, nous on continue à se soutenir les uns les autres, on continue à prier, et le Seigneur ne va pas tarder. Alléluia. Amen. Le frère Gianfranco n'est pas encore là. Donc nous allons commencer. Frère Jérémy, si on a mis. Donc, frère Jérémy, pardon, tu m'entends, le frère Franco te demande si tu l'entends. Donc, Noémie, comment ça va? Et les beaux-parents, comment ça va? Le Seigneur conduit et tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, justement, je parlais de cette affliction. Parce qu'il y a beaucoup de requêtes de prière, même en Allemagne. Et on voit, même ici aussi, il y a des requêtes de prière. C'est vrai. Mais il y a un passage des Écritures que je voulais d'abord lire avec vous, avant de commencer, dans Hébreux 4, si je ne me trompe pas. Au verset 14, Hébreux 4, qui peut être un peu notre guide, notre soutien. Hébreux 4, 14, journalier, de manière journalière. De façon qu'on puisse s'accrocher à la foi et aux promesses de Dieu. Parce que il n'y a rien en nous-mêmes. Nous, on est incapable de quoi que ce soit. Et quand je vois tous ces besoins, comment un homme de chair, un homme simple, comment est-ce qu'il va mettre sur ses épaules toutes ses requêtes sur ses épaules? Toutes ces requêtes, c'est pas possible. C'est difficile. Donc il y a aussi des personnes âgées, il y en a d'autres qui souffrent d'une autre manière, etc. Il y a aussi Nathanaël, mon neveu aussi. Il a aussi été testé positif aussi. Voilà, on a prié, la fièvre est descendue rapidement, vous voyez. Donc, je ne pense pas que ce soit neveu, son petit-fils, je pense. Donc, quoi qu'il en soit, ils ont aussi été en quarantaine. C'est pour dire simplement qu'il y a beaucoup de besoins. Mais d'un autre côté, il y a aussi quelque chose qui sort. Et on apporte tout devant le trône de la grâce. Et notre cœur se fait petit quand on voit qu'il y a beaucoup de besoins. Il faut prier aussi pour Stéphane. Stéphane. Parce qu'on sent qu'il y a cette nécessité. Le frère Branham, lui aussi, quand il priait pour les malades, il avait toujours ça dans son cœur, de prier pour les malades. Donc, il avait vraiment un cœur humble. Il avait toujours aussi cette tristesse dans le cœur. Alors, je prie, je lis ce passage pour dire quelqu'un au-dessus de nous qui a tout pris sur lui. Et il n'y a rien qui lui échappe. Rien qui échappe à sa vue ni à ses yeux. Il n'y a rien qu'il soit capable de faire. Donc, Hébreux 4, 14. On connaît tous cela, c'est très important. Hébreux 4, 14. Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons ferme notre confession. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités. Mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché ou sans péché. Approchons-nous donc avec confiance ou avec assurance du trône de la grâce afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun ou dans nos besoins. Vous voyez ce passage ? Un passage des Écritures qui réconforte. Et ça nous fait du bien. Ça nous recharge les batteries. Et ça nous... Parce qu'on sait que quelqu'un d'autre a pris en main notre propre vie, nos pensées et tout le reste. Alléluia. Donc c'est une chose certaine et sûre que le Seigneur est en train de travailler pour la préparation, malgré tout ce qu'on voit. Voilà, nous allons commencer et nous allons rester toujours dans la confiance. Nous allons invoquer le nom du Seigneur. Nous allons prier. Et nous voulons croire que vraiment, vraiment, le Seigneur est parmi deux ou trois qui se réunissent au nom de Jésus-Christ. On est conscient que cette promesse est pour nous, que nous la croyons, pour nous qui tenons fermement, qui nous voulons fermement être touchés par lui. Oui, Seigneur, encore ce soir, nous voulons cette action. Que cette action vienne dans ton Église. Que nos cœurs puissent sentir ta présence que tu nous donnes. Et qui est encore là, particulièrement là où deux ou trois sont réunis en ton nom. Tu es toujours parmi eux. Regarde les cœurs, les besoins. Tu es capable d'agir et de distribuer tes bénédictions. En particulier, là où il y a plus de souffrance. Et toi, tu connais toutes choses, tu connais tout. C'est pour ça qu'on te dit, viens parmi nous encore ce soir, parle avec nous, entretiens-toi avec nous. Nous avons besoin d'être secourus. Nous avons besoin d'écouter de sentir ta présence. Et nous avons besoin de toucher le bord de ton vêtement, avoir le secours opportun, dont nous tous, petits et grands, nous avons besoin, les jeunes, les vieux. Voilà pourquoi nous croyons que tu es parmi nous. Et rien n'échappe à tes yeux. Les yeux d'un père qui a engendré des fils à travers ton sang précieux. Tu as généré des fils et des filles en Christ Jésus. Merci Seigneur d'être parmi nous, de nous faire aller de l'avant dans ton règne. Que nous puissions encore voir ta main agir parmi nous. Ton bras n'est pas court. La vérité doit encore être distribuée. Les hommes doivent encore écouter l'évangile. Les derniers doivent encore entrer. Et le jour de grâce est toujours là. C'est toujours un jour de bénédiction. Voici pourquoi nous disons, viens parmi nous et glorifie ton nom. Ouvre-nous encore l'entendement, l'intelligence, surtout lorsque nous allons parler de ta parole. Ouvre-nous l'intelligence et le cœur, afin que nous puissions réaliser que tu es là. À toi, la gloire, l'honneur, l'adoration, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons continuer la lecture de la lettre circulaire du frère Franck. On est arrivé à la lettre 41, lettre circulaire de janvier 1994, donc. Et c'était en italien, à la page 6. Mais pour nous, c'est donc un paragraphe qui commence par « Dans les églises du Nouveau Testament ». Mais on va un peu au-dessus. Un peu au-dessus. En Israël, voilà, c'est un peu au-dessus que le frère lit. Donc, dans les églises du Nouveau Testament, des anciens ont également été établis. Actes 14, 23, 1 Timothée 3, Tite 1, etc. Paul et Barnabas s'en allèrent avec une délégation pour rencontrer les apôtres et anciens de Jérusalem à cause d'un point de controverse. Acte 15. Donc, le frère Franck a beaucoup parlé des anciens. Donc, Paul et Barnabas s'en allèrent avec une délégation pour rencontrer les apôtres et les anciens de Jérusalem à cause d'un point de controverse. Acte 15. Donc, c'est là qu'il devait encore, il y avait encore certaines choses qu'il fallait encore établir, parce qu'il y avait encore certaines choses de la loi de Moïse qu'il voulait, que certains voulaient continuer à mettre en pratique. Mais vous pouvez lire ça, il y avait cette petite rencontre dans Acte 15, et Dieu a fait grâce. Et cet esprit a donné la solution juste. Par leurs moyens, ils firent porter cet écrit, les apôtres et les anciens et les frères, aux frères d'entre les nations qui sont à Antioche et en Syrie et en Cilicie. Salut. Verset 23. C'est écrit comme ça, salut. Verset 23. Donc c'était tous les anciens ensemble qui parlaient de ce point de controverse. Donc comme on l'a dit l'autre jour, la phrase qui continue, on dirait que c'est lié, mais c'est séparé. C'est-à-dire au verset 23, c'est une chose. Et maintenant, attention, ce ne sont pas les frères exerçant les cinq ministères de la parole que Paul fit appeler lorsqu'il s'agissait d'une assemblée locale, mais bien les anciens. Or, il envoya de Milet à Éphèse et appela auprès de lui les anciens de l'Église, de l'assemblée. Il les exhorta en leur disant, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Acte 20, 17 et 20 et 28. Le sang du Fils. Les anciens sont aussi appelés surveillants et présidents. Bien sûr, c'est la même chose, ce sont les mots qui changent. Frère Gianfranco, Dieu te bénisse, ce sont les mots qui changent, mais ça toujours, c'est toujours les mêmes personnes. Ce sont simplement comme des titres. Mais ça ne change pas la personne, elle est toujours la même. Donc les anciens peuvent être appelés surveillants ou présidents, ceux qui président une assemblée dans l'assemblée. Dans l'assemblée, les 24 anciens nous sont montrés comme représentants l'ancienne et la nouvelle alliance. Ce sont les anciens qui sont appelés à faire l'onction d'huile aux malades et à prier avec eux. Jacques 5, 14. Ils ont pour tâche de haute importance de veiller au bien-être de l'assemblée sous tous les rapports. Mais surtout spirituel. Et tout ce qui peut arriver dans une assemblée. dans la coordination, encore une communauté, voilà, une communauté. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, et témoin des souffrances de Christ, qui aussi est part à la gloire qui va être révélée. Paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous. 1 Pierre 5, 1 et 2. Celui qui a réellement la crainte de Dieu dans son cœur respectera dans leur service les frères établis par Dieu. Celui qui n'a pas de respect envers les décisions de Dieu n'a pas davantage la crainte de Dieu. C'est Dieu qui décide. Hein? Donc si on n'a pas de respect, si on n'a pas de crainte envers Dieu, etc. La crainte de Dieu doit retourner dans l'Église et elle y sera, c'est certain. Actes 5, 1 à 11. Car elle est le commencement de toute sagesse divine. Psaume 110. Psaume 111, 10 et Proverbe 1, 7 et Jacques 3, 17. Donc il doit y avoir toujours une crainte. Surtout, pas envers un homme, mais surtout pour la parole de Dieu, voyez. Dieu veut le respect pour sa parole, parce que sa parole, ce sont ses commandements, donc ses ordonnances. Donc automatiquement, si on respecte l'homme qui parle ou qui prêche, ben on respecte évidemment Dieu et la parole qu'il prêche. Les frères responsables dans les communautés sont qualifiés pour s'occuper des intérêts de tous ceux qui appartiennent à l'Église. Paul écrit dans 1 Corinthiens 5, 12, « Car qu'ai-je à faire de juger ceux de dehors aussi ? Vous, ne jugez-vous pas ceux qui sont de dedans ?» Celui qui se retire de la vie de la communauté, attention ici, celui qui se retire de la vie de la communauté parce que la parole ne peut lui donner raison, rend témoignage qu'il n'accepte pas d'être placé sous l'autorité de la parole, mais qu'il se considère au contraire comme étant au-dessus de la parole. Vous voyez ? Il est juste de se demander si de telles personnes peuvent être des membres du corps du Seigneur. Voilà pourquoi les grandes erreurs qu'on a faites jusque maintenant et qu'on continue de faire, c'est qu'on ne se rend pas compte que on ne s'appartient pas à nous-mêmes, on n'appartient pas à une dénomination ou à une église dénominationnelle ou à un groupe dénominationnel qui peut faire ce qu'il veut. Non, on a affaire avec Dieu, parce que c'est Dieu qui a établi cela. Et c'est Dieu qui a établi des règles dans une assemblée des hommes, parmi les hommes, de façon qu'ils puissent vivre de manière sainte et selon la parole de Dieu, voyez. Sinon, on fait toujours la volonté d'un homme. On gère les choses de manière charnelle, de manière humaine. Les choses qui devraient être gérées de manière spirituelle. C'est-à-dire qui vient directement du trône de grâce de Dieu. Lisons un peu le Proverbe 18. Donc, dans les années 70, 80, 70, 80. Il y a des frères qui disaient ça, il y a des frères qui sortaient d'un côté, des frères qui sortaient d'un autre. Ah, aussi, années 90, années 90, et aussi encore maintenant. Parce qu'on n'a pas pris conscience de ce que Dieu fait réellement dans l'assemblée. C'est pas une brique. C'est pas une église de briques. Non, ce sont des gens reliés entre eux par le sang de Jésus-Christ, par la parole de Dieu, structurés par la parole de Dieu. Ils ne se rendent pas compte. Alors ils sautent d'une église à une autre, d'un passage à un autre, d'un poste à un autre. Alors lisons un peu Proverbe, un passage qu'on peut lire et qu'on connaît tous dans Proverbe. Et on disait souvent ce proverbe, on le nommait souvent, 18.1. Celui qui se tient à l'écart, celui qui recherche ce qui lui plaît. Ce qui lui plaît. Il conteste contre toute sagesse. Il conteste et se moque hein, contre toute sagesse, ou toute raison en italien. Donc c'est une position intérieure. C'est quelque chose qui doit rester dans le cœur. C'est pas humain, c'est spirituel. Ça habite dans l'homme, mais c'est spirituel. Et tant que l'homme n'arrive pas à cette chose-là, il aura des difficultés à avoir des communions les uns avec les autres. Parce que tout ce que Dieu a fait de la Genèse jusque maintenant, il ne l'a pas fait pour l'homme seulement. Il n'a pas fait seulement pour un ou deux individus particuliers. Non, il a fait pour son Église, son assemblée à lui. Il y a une seule assemblée, il y en a une seule. Il peut y avoir 10 églises dans une ville, par exemple. Mais s'ils sont tous unis ensemble, les unes avec les autres, qui sont unis exactement comme l'Écriture le dit, alors c'est comme une seule assemblée, pas de problème. Sinon, ils sont séparés. Vous voyez, Dieu traite toujours avec une seule assemblée, une seule église. Donc il faut savoir dans quelle assemblée on va. Si on va dans celle de Jésus-Christ, c'est-à-dire la vraie église fondée par les apôtres et les prophètes, ou si on va dans un groupe de personnes où je peux faire ce que je veux, quand je veux, et décider ce que je veux. Non. Continuons la lecture ici. Donc il est juste de se demander si de telles personnes peuvent être des membres du corps du Seigneur, car pour ceux-là, au contraire, donc pour ceux qui sont dans le corps du Seigneur, au contraire, toute la parole de Dieu est valable. Quelques personnes revendiquent aussi le droit pour elles seules. Mais en réalité, en fait, les droits d'un croyant n'existent que dans les limites établies par la parole de Dieu. Juste, vous voyez, tes droits et mes droits, ils doivent être dans les limites de la parole de Dieu. Alors là, vous te sentiras tous bien. Sinon, tu cherches ton droit, je cherche mon droit, l'autre cherche son droit, et voilà qu'il y a un conflit. L'autre vient, l'autre part, l'autre vient, vous voyez. Donc lisons Deutéronome 12, 9. Deutéronome 12, verset 9. Disons à partir du verset 8. Vous ne ferez pas selon tout ce que nous faisons ici aujourd'hui. Vous ne ferez pas selon tout ce que nous faisons ici aujourd'hui, chacun ce qui est bon à ses yeux. Car jusqu'à présent, vous n'êtes pas entré dans le repos et dans l'héritage que l'Éternel, notre Dieu, te donne. Mais lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous habiterez dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous fait héritier, et qu'il vous aura donné du repos à l'égard de tous vos ennemis alentour, et que vous habiterez en sécurité, alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire habiter son nom. Donc l'unique lieu saint où le Seigneur réside. Ah, c'est la tienne, frère Franck? C'est toi, frère? Non, c'est l'église de qui? Non, absolument pas. C'est celle de Jésus-Christ, où A, B, C sont tous réunis en Christ, pour aller dans un seul endroit, c'est-à-dire en Jésus-Christ, dans le Seigneur. Amen. Je crois que ça, c'est clair, ça a été compris. Parce que si vous lisez Deutéronome 12, il y a un sanctuaire saint, un seul lieu d'adoration. Le seul lieu d'adoration. Je continue à lire. Donc, quelles sont les limites d'un chrétien dans la parole de Dieu? Ici, j'ai noté, j'avais noté un peu mes pensées. Donc, les limites du sang, les limites dans le sang, restez dans le sang. Rappelez-vous, dans Deutéronome 12, Exode 12, dans Exode 12, la Pâque, quand le Seigneur a dit qu'il fallait tuer un agneau et qu'il fallait, ou un chevreau, qu'il fallait mettre le sang sur le linteau et les montants. Donc c'était ça leur limite. Et s'ils sortaient de cette limite-là, ben, il y avait la mort. Donc il y avait le destructeur. Donc il fallait rester là. Donc la limite d'un chrétien, c'est de rester sous le sang de Jésus-Christ, sous la grâce, sous la parole de Dieu, sous l'obéissance à l'ordre que Dieu a donné. Alors là, on est tous d'accord. Et les petites choses, les petites disputes seront en, disons, seront sous le sang de Jésus-Christ. Combien de personnes sortent des limites du sang de Jésus-Christ et les ennemis les attrapent? Vous comprenez? Vous comprenez? Et nous voyons les années 70, 80, maintenant. Et si on sort des limites, l'ennemi, il est là. Il est sur ses gardes et voilà. Que l'ennemi, que vraiment Dieu nous aide, nous tous qui écoutons, et que nos droits restent dans les limites de la parole de Dieu, dans le sang de Christ, où il y a le pardon, où il y a la grâce, où il y a la guérison, à travers ses meurtrissures, on a été guéri à travers son sang, vous voyez? Amen. On a été régénéré. C'est ça les limites. Alléluia. Il y a plein pardon. Le plein pardon. Sans le pardon, on ne peut rien faire. Si le Seigneur Dieu ne nous avait pas pardonné, après tout, toute notre vie, tout ce qu'on a été, tout ce qu'on a fait, tout, où est-ce qu'on serait? Vous voyez? Donc les limites, c'est vraiment ça. Donc je vous donne un petit exemple. Un petit exemple. On était à Lausanne. On était à Lausanne, dans l'assemblée là. Il y avait deux jeunes frères. Deux jeunes frères. Je peux même donner les noms. Mais bon, les noms, c'est pas intéressant. Ce sont des Français. Et puis, un frère a épousé la fille du frère Gino Pinati. Alors, il venait dans l'assemblée à Lausanne. Il venait là. Donc, c'est-à-dire, ils étaient un peu comme des vagabonds, ils allaient un peu partout, un peu partout. Ils changeaient d'assemblée, comme ça. Et puis, un jour, ils ont été dans une assemblée en France, près de la frontière, tout près du lac. Dans une assemblée en France. Et là, il y avait aussi des frères qui étaient sortis de l'assemblée, que maintenant beaucoup de frères connaissent. Donc, des frères qui ont eu aussi reçu le message aussi. On a dit clairement, on a dit, fais attention, il y a un piège là. Ils ont dit, non, nous on a assez fort, nous. Nous, on cherche plutôt à les faire venir. On veut leur donner la juste parole, la juste vision, afin qu'ils puissent revenir et rentrer. Et nous, on leur a dit, attention, vous n'allez pas y réussir, vous n'allez pas réussir, attention. Ils ont dit, non, 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 on va y réussir. Et finalement, ils sont devenus eux-mêmes des branhamistes, eux-mêmes. Vraiment des branhamistes convaincus, à 100%. Alors on s'est regardé, et on a dit, voilà le résultat. Qu'est-ce que vous pouvez faire à cela? Ils sont sortis de cette limite, de ce droit du sang, dans le sang. Vous voyez? Donc vous voyez, il y a toujours ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden qui est toujours aux aguets. Le serpent sous une autre forme. Donc Dieu doit toujours faire grâce afin que nous tous, dans notre cœur, dans notre position, donc je parle maintenant parce que beaucoup écouteront sûrement, et j'espère, et je veux l'espérer, que beaucoup écouteront cette prédication, qu'ils puissent comprendre que le corps de Jésus-Christ. Quand on entre dans le corps du Christ. Pas un va-et-vient, non. Sinon, tu n'es pas entré dans le corps du Christ. Parce que celui qui entre, il fait partie du corps du Christ, parce qu'il est né en Christ. Il est né dans le corps du Christ. Vous y êtes ? 1 Corinthiens 14. Baptisé par un seul esprit en formant un seul corps et qu'on puisse réaliser cela. Donc ils peuvent plus. Donc on est entré, on peut plus sortir. C'est un fils de Dieu, une fille de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je continue à lire ici. Le frère Franck écrit, frère. Donc il cite Galates 6:1. Frère, quand même un homme s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. On a déjà prêché sur ce sujet une fois. Et ça, c'est donc dans Galates 6:1. Que ce soit pour le couple, pour la famille, ou parmi les frères et les sœurs, pour tous, la parole est pleinement suffisante pour que, au travers d'elle, seule une sentence juste soit prononcée. Alléluia. Aucun croyant ne doit chercher à faire valoir ses droits à l'égard de son frère ou de sa sœur en Christ par le moyen d'un avocat ou devant une cour de justice. Paul a repris les croyants qui faisaient valoir leurs droits devant des juges incrédules, plutôt que d'avoir cherché à le faire auprès des saints. 1 Corinthiens 6. Tous ceux qui cherchent à faire valoir leurs droits devant des juges non-croyants méprisent Dieu et sa parole. Ils exposent l'Église du Seigneur à la moquerie des incrédules. Pas une Église, mais l'Église du Seigneur. À la moquerie des incrédules, ils cherchent et jettent ainsi des perles au pourceau. Alléluia. Je crois que ça, c'est important. Très important. Voilà pourquoi, si on comprend cela, comme on dit, les vêtements sales, même Paul d'une fois, on lave le vêtement sale en famille, c'est-à-dire la famille du Christ. De temps en temps, à la télévision, il y a une émission, là, comment on appelle ça? Cette émission, Italie. Forum en Italie, la télévision italienne, où ils vont même à fouiller dans leur vie personnelle les problèmes personnels de famille, de femme, d'épouse, de mari, de choses vraiment. Donc vous vous rendez compte de toute cette chose qu'ils sortent comme ça, mais ce sont des choses du monde, des gens du monde. Mais parfois même chez les croyants, ils vont aussi dans cet esprit-là, de tout dévoiler. Donc je continue. Donc ici, ce que je lis maintenant, moi je l'ai souligné, moi, dans ma note, tous ceux qui cherchent à faire valoir, aucun de ceux qui, à connaissance de cause, c'est-à-dire volontairement, foule au pied la parole de Dieu ne sortira de l'infini. Celui qui a recours à un juge de ce monde rend nul le droit divin, car il a cherché son propre droit par la voie des incrédules. Par exemple, comment dans l'affaire d'un couple un juge de ce monde peut-il prononcer ce qui est juste alors qu'il ne connaît lui-même aucunement la parole de Dieu? Il ne sait pas ce qui est écrit dans Matthieu 5, 32 ou encore dans Matthieu 19, 9, 1 Corinthiens 7, 10, 11 ou 15, ainsi que dans beaucoup d'autres passages bibliques du Nouveau Testament encore, sans compter tous ceux qui se trouvent dans l'Ancien Testament. D'Exode 20 à Malachie 2, 16. Donc voyez, ils mettent à nu, on jette des perles au pourceau et on met à nu la parole de Dieu. C'est vraiment quelque chose de terrible. Le sacré avec le mélangé avec le profane. Ça, Dieu ne le permet pas. Donc les gens ceux qui font ça ne sortent pas impunis. Tout ce qui arrive aux croyants n'est pas d'ordre privé ou une affaire de famille, car dès que cela aboutit dans le domaine public, Cela concerne toujours l'Église tout entière. C'est pourquoi le droit divin, au travers de la parole, doit être prononcé sans parti pris et dans l'Église. Donc, c'est quoi la famille? En général, la famille, on sait tous. On est tous italiens, on est attaché à la famille, vous connaissez. Donc, imaginez la famille de Christ, c'est-à-dire le corps du Christ. Donc, si je comprends ça, si je réalise ça, si on réalise tout cela, on sait que tout ce qui se passe dans... Donc, je vais relire ce que Frère Franck a écrit ici. Que Dieu fasse grâce de pouvoir l'assimiler afin que nous puissions être un tout avec la parole de Dieu. Tout ce qui arrive aux croyants n'est pas d'ordre privé ou une affaire de famille, car dès que cela aboutit dans le domaine public, cela concerne toujours l'Église tout entière. C'est pourquoi le droit divin, au travers de la parole, doit être prononcé sans parti pris et dans l'Église. Donc, quand il y a quelque chose qui arrive à un croyant, ça ne doit pas sortir. Ça doit rester dans l'Assemblée. Et c'est l'Église qui s'en occupe. Combien le font aujourd'hui? Combien l'ont fait? Vous voyez? Et pourtant, on arrive, comme je l'ai dit au début, on arrive à la fin et au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu veut que l'Église soit parfaite en harmonie avec la parole. Alléluia. Vous y croyez? Moi, je crois de tout mon cœur. Cette parole est la vérité. Alléluia. Vous voyez? Donc, je continue à lire. En cas de litige, il est toujours nécessaire qu'il y ait un médiateur qui prononce la juste sentence. Le médiateur ne doit cependant appartenir à aucun parti, ni donner droit à une des parties en conflit. Il doit au contraire servir d'intermédiaire et chercher à réconcilier ceux qui sont en différend. Notre Rédempteur en est le meilleur exemple. Il fut le médiateur de la Nouvelle Alliance. Et en lui, l'humanité partagée en deux fut réconciliée avec Dieu. Celui qui se soustrait aux directives justes de la parole prononcée au-dedans de l'Église et se dresse contre elle, fraye son propre chemin, ouvre son propre chemin. C'est-à-dire, il fait son propre chemin, son propre chemin. Mais il faut faire que, comme Paul le dit, nous devons arriver, comme l'enseignait Paul, à ce que des hommes éprouvés dans la foi jugent d'une affaire afin qu'elle soit éclaircie. Donc j'avais noté ici dans mes notes, regardez Salomon, avec par exemple l'histoire des deux femmes qui se sont présentées devant lui, avec un enfant mort et un enfant vivant. Dieu lui a donné la sagesse à Salomon, le discernement, de pouvoir voir exactement qui était la vraie maman. Et le Seigneur l'a démontré. Alors, où sont ces Salomons dans notre temps? Vous voyez, vous y êtes? Ce sont des anciens, des personnes que Dieu a établies avec l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu, pour décider ça ou ça. Mais il y en a très peu, très très peu, qui mettent en pratique afin que le jugement de Dieu reste dans l'Église et sous la conduite du Saint-Esprit. Alléluia, c'est vrai. Voilà pourquoi il y a encore dans les assemblées, dans le corps du Christ, dans l'épouse, disons comme ça, il y a encore tous ces problèmes, tous des inconvénients, des histoires, des problèmes. Donc toujours des choses cachées comme ça, et on n'arrive pas à régler ça. C'est terrible, et pourtant toutes ces choses ne pourront jamais hériter le royaume des cieux. Ils n'hériteront jamais du royaume des cieux, ces choses-là. Dieu nous donne l'entendement. Je remercie le Seigneur, car il nous fait approcher toujours plus à la réalité divine. Et là, en mettant en pratique la parole de Dieu, les commandements de Dieu, nous vivons par ces commandements, par cette parole. C'est vrai, amen. Je continue à lire. Ce n'est pas toujours avec de mauvaises intentions que deux personnes entrent en conflit. Il peut arriver que chaque partie se réfère à un autre passage biblique et s'y appuie, sans prendre en compte, sans prendre en considération le passage biblique de son interlocuteur. Et c'est ainsi que prennent naissance des accusations qui sont aussi vieilles que le monde. Dans le jardin d'Éden, déjà, lorsque le Seigneur Dieu demanda la raison de son acte à Adam, celui-ci répondit « La femme que tu m'as donnée pour être avec moi, etc. » Et lorsque Dieu s'adressa à la femme, celle-ci lui dit « Le serpent m'a séduite. » Donc Genèse 3, 12 et 13. Par bonheur, le Seigneur Dieu n'a maudit ni Adam, ni Ève, mais seulement le serpent. Alléluia, vous voyez ? Le Seigneur a fait grâce. Il a donné la bénédiction. Au contraire, aucune affaire ne peut être résolue. Aucune affaire ne peut être résolue en accusant les autres de culpabilité, ni par des chicanes, c'est-à-dire des disputes. Aucune affaire ne peut être résolue en accusant les autres de culpabilité, ni par des chicanes, des discussions, des disputes. Et on en a fait l'expérience. Au contraire, le problème ne peut devenir que plus grand. L'accusation de culpabilité ne peut venir que lorsque le pardon et la réconciliation sont repoussés et refusés. Donc je répète. Au contraire, le problème ne peut devenir que plus grand. L'accusation de culpabilité ne peut venir que lorsque le pardon et la réconciliation sont repoussés et refusés. Vous voyez comment le pardon est important? Comme la grâce est importante? Le pardon est important? Cela ne devrait jamais arriver chez les croyants. Jamais chez les croyants. Car il y a une mise en garde très nette dans le Notre Père lorsqu'il est dit « Et remets-nous nos dettes comme aussi comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du mal car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, leurs péchés votre Père Céleste vous pardonnera aussi à vous mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes Matthieu 6, 12, 1, 15 Alléluia c'est clair, vraiment clair Que Dieu nous bénisse et nous fasse grâce. Si quelqu'un pense que ses paroles ne le concernent pas, il se trompe lui-même. Celui qui ne peut pas pardonner une chose à son prochain, Dieu ne lui pardonnera alors aucune chose. Aucune chose, rien du tout. Attention, faites attention à cela. C'est très grave. J'avais noté ici, que le principe de Dieu, ça a toujours été, et on l'a toujours dit, le pardon, n'est-ce pas? Parce que si Dieu ne nous avait pas pardonné, si déjà dans le jardin d'Éden, il n'avait pas pris deux agneaux, après les avoir tués, qu'il n'avait pas recouvert donc Adam et Ève. Ah, donc là, ça démontre que Dieu, c'est-à-dire avec ce qu'ils avaient fait, Dieu les avait déjà pardonnés, c'est ça que ça montre. Parce que le sang avait été versé, dès le commencement, le sang avait été versé. Que Dieu puisse encore avoir patience avec chacun d'entre nous, pour démontrer que tout est fondé sur le pardon. Dieu a fondé son plan sur le pardon et la grâce. Que Dieu nous aide. Alléluia. Vous voyez? Allons de l'avant. Donc je continue ici. Et c'est ainsi que nous pouvons le lire dans Marc 11. C'est ainsi que nous pouvons lire dans Marc 11, 27, 26. Et quand vous ferez votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père aussi qui est dans les cieux vous pardonne vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos fautes. C'est face à de telles paroles de l'Écriture que chacun peut se juger soi-même. Il n'a pas besoin de consulter une autre personne pour savoir où il en est. Celui qui a réellement pardonné tend à l'autre. Celui qui a réellement pardonné tend à l'autre la main de la réconciliation. Donc il n'y a pas de problème de conscience, il n'y a pas d'opposition. Tout se fait tranquillement, avec certitude et assurance. Amen. Celui qui n'est pas réconcilié avec son frère ne peut pas être réconcilié avec Dieu. Même seulement lorsqu'une personne se met en colère contre son frère, il est soumis au jugement de Dieu. Dans la loi, celui qu'il appelait Raca, le stupide, devait en rendre compte devant le Sanhédrin. Et celui qui le qualifiait de fou était passible de la géhenne de feu. Matthieu 5, 21 et 22. Combien de temps voulons-nous encore passer par-dessus ces passages bibliques? Combien de temps voulons-nous encore passer par-dessus ces passages bibliques? En considérant de manière superficielle les trois cas d'insultes mentionnés ci-dessus, nous pourrions les qualifier de paroles cavalières. Mais auprès de Dieu, c'est une chose mauvaise, car il connaît les raisons qui animent les cœurs, ainsi que la raison pour laquelle de telles expressions et de tels noms sont lancés à la face de l'autre. Il sonde les cœurs et éprouve les reins. Et ça, c'est Dieu seul qui le fait. Il sonde les cœurs et éprouve les reins. Bien sûr, on peut dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu joues le fourbe, là. Mais Dieu sonde le cœur et éprouve les reins. Mais voilà. Le sang de Jésus-Christ lave. Et il faut rester tranquille et laisser la chose là. Dans Matthieu 5, où il est fait mention de ces choses, que nous pensons être de peu d'importance, c'est précisément là qu'il est dit que si nous voulons offrir un sacrifice au Seigneur, nous devons le laisser devant l'autel et venir, premièrement, nous réconcilier avec la parole concernée. Ce n'est que lorsque le droit et l'ordre divin sont rétablis parmi les individus qu'ils pourront aussi l'être dans l'Église, quand le sang circule parmi les membres du Christ. Le sang qui purifie, là où il donne la vie et il restaure tout. Amen. Donc, une chose importante que j'ai soulignée, ce n'est que lorsque le droit et l'ordre divin sont rétablis parmi les individus, qu'ils pourront aussi l'être dans l'Église, aussi l'être restaurés dans l'Église. Je me suis arrêté un petit moment en lisant ça. Vous voyez tout ce qui est attaché à la restauration. Vous voyez comment tout est attaché, collé, tout est collé ensemble. Ce que le frère Branham nous a enseigné à travers la parole de Dieu concernant la révélation de Jésus-Christ, le caractère de Christ, alléluia. Nous croyons fermement que ça n'a pas été vain, en vain. Mais on a pu assimiler parfaitement la volonté de Dieu dans nos vies. Et de mettre en règle devant lui. Ici, il y a un autre extrait du frère Franck de sa lettre circulaire 43 de janvier 1995. Le frère Franck écrit ceci. En novembre 1978, 78, le Seigneur me parla un samedi matin, disant les paroles suivantes. Mon serviteur sonde les actes des apôtres et voit s'il n'y a jamais eu un homme et sa femme qui aient été consacrés ensemble dans le service. Beaucoup de frères et sœurs connaissent les circonstances à cause desquelles un couple et toute l'assemblée, par une fausse prophétie, tombèrent dans une grande détresse intérieure. On en a déjà parlé de cela. Ça s'est passé dans l'église de Krefeld. Donc on ne va pas en reparler. Donc c'est pour montrer que la parole de Dieu est précise. Et parfois, sans s'en rendre compte, on sort de cette parole et le désastre arrive. Donc quand on sort des limites, les limites justes de Dieu. Et alors il y a des choses bizarres, des choses impensables qui peuvent arriver. Et les gens tombent là-dedans, dans l'angoisse, dans la tristesse, dans l'œuvre du diable. Donc, je continue, frère Franck dit, à cause de toutes ces expériences, je peux dire avec une pleine certitude que la voix du Seigneur est solennelle et puissante, qu'elle a un ton de commandement et qu'elle a en elle-même quelque chose de définitif, mais pas comme un coup de tonnerre. Chaque fois, je pensais, si le Seigneur parle encore une fois, alors le monde fera silence. C'est vrai. Quand Dieu parle, le monde fait silence. Amen. Même dans l'Ancien Testament, à la montagne, quand il parlait de sur la montagne, au Sinaï, tout le monde a dit, non, non, que Dieu ne nous parle pas. Mais toi, parle-nous, Moïse. Toi, Moïse, parle-nous, vous voyez. Parce que ce sont des paroles fortes qui font trembler les cœurs. Vous voyez. Donc ici, le frère Franck a eu cette expérience unique. Mais Dieu vraiment l'a béni, et que Dieu puisse le bénir encore. Cette expérience qu'il a vraiment fait avancer dans le champ de la prédication et du ministère que Dieu lui a donné. Donc je continue ici. La voix de Dieu est tout à fait différente. Je l'ai entendu, la voix de Dieu est tout à fait différente. Je l'ai entendu une seule fois comme un tonnerre assourdissant qui devenait toujours plus fort et tombait sur moi. C'est arrivé le 16 juin 1979 à l'aube du jour sur l'île danoise de Fano. Alors que le tonnerre se trouvait courtement sur moi, la voix de Dieu en colère retentit directement de celui-ci où chaque parole retentissait par elle-même comme un coup de tonnerre. Comme un coup de tonnerre. Cette phrase qui était composée de 9 mots exactement me traversa jusqu'à la moelle des os. Parce que le tonnerre, puis ensuite la voix sortant du tonnerre, venait d'en haut à droite. Je tombais, au vrai sens du terme, du côté gauche, projeté au sol par cette énergie. Je peux réellement ratifier ce qui est décrit dans la Bible, l'ayant expérimenté personnellement, et cela jusque dans le moindre détail. Les serviteurs de Dieu ne font pas de suppositions de leur vie et de service, ni ne font des spéculations. Ils font les mêmes expériences que celles qui nous sont rapportées dans les Saintes Écritures. Amen. Ici, le frère Franck a un autre écrit, une autre lettre circulaire, un extrait de la lettre circulaire 45 de janvier 1996 ou janvier 1996. La création tout entière attend d'être délivrée de la servitude et de la corruption. Mais les croyants qui attendent le retour de leur Seigneur soupirent tout particulièrement après la transmutation de leur corps mortel en un corps immortel. Romains 8, 19 à 22 et autres. On revient donc dans la jeunesse. Dans la jeunesse. Vous savez, quand on avance dans l'âge, vraiment. Donc, déjà, donc je ne veux pas entrer dans des détails, mais on voudrait expérimenter que ce corps, sujet au péché, ce corps de chair, on aimerait qu'il soit changé en un instant, en un clin d'œil. En un corps spirituel. C'est quelque chose que nos yeux et notre esprit ne peuvent même pas concevoir. On ne peut pas l'imaginer, croyez-moi. C'est quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux. Seulement, on peut l'imaginer un peu, Mais il y a ce désir à l'intérieur de nous, c'est vrai que les morts en Christ ressusciteront d'abord dans un corps déjà changé, et nous qui serons encore vivants, nous serons transmués en un clin d'œil. Vous voyez ? Et ensemble, tous les deux, pratiquement ensemble, donc ceux qui ressuscitent et nous qui sommes encore vivants, mais comme c'est glorieux de vivre cette chose de notre vivant, en vrai, c'est spécial. Moi, je crois que ça va se faire, je crois que oui. Prenez Carmela, par exemple. Prenez Frère Franck, qui a plus de 90 ans, 97 ans, ou 98 ans peut-être, 98 bientôt, ou 97. Pardon, 87. Ou 86. Et vous pensez qu'en un instant, ce corps peut être changé en un jeune homme? C'est pas une fable, c'est l'écriture, c'est l'écriture. Abraham. Il est écrit qu'à 90 ans, 90 ans, donc Abraham 100, Sarah 90 ou 90, ils ont eu un enfant. Donc ils ont été régénérés. Ils sont devenus régénérés dans leur corps. Comme type de la transformation que Dieu donnera à son Église, à son épouse. Vous y croyez? Amen. C'est merveilleux. Amen. Alléluia. Eux, ils l'ont expérimenté. Là, ils ont pu l'expérimenter. Là. Donc, c'est un type de l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vraiment nous bénisse et nous donne cette foi nécessaire. Cette foi dans nos cœurs. Donc, Romains 8, on le croit. Transmutation du corps mortel en immortel. C'est la raison, je continue à lire, j'ai souligné ça, c'est la raison pour laquelle il faut maintenant, durant la dernière partie du temps de la grâce, que tout soit ordonné selon la volonté de Dieu dans la vie de chacun et dans l'Église. Et dans l'Église, avec un E majuscule. Cela signifie qu'en pratique, il faut que nous arrivions à un plein accord avec la parole de Dieu. Il faut que le désir de notre cœur soit qu'en tout ce que nous faisons, nous puissions nous demander que dit l'Écriture à ce sujet. Que tout ce que nous puissions, tout ce que nous faisons, nous puissions nous demander que dit l'Écriture à ce sujet. L'apôtre Jacques nous exhorte instamment à ne pas même murmurer les uns contre les autres. Donc, on venait de dire des paroles, on venait de parler des paroles légères, mais le Seigneur ne l'accepte pas. Que Dieu puisse purifier nos bouches et nos cœurs. Voyez ? Ici, l'apôtre Jacques nous exhorte instamment à ne même pas murmurer les uns contre les autres. Et cela, parce que la venue du Seigneur est proche. Donc je relis. En tout ce que nous faisons, nous puissions nous demander que dit l'Écriture à ce sujet. L'apôtre Jacques nous exhorte instamment à ne même pas murmurer les uns contre les autres. Et cela, parce que la venue du Seigneur est proche. Jacques 5, 7 à 11. L'Église, à la fin, sera comme au commencement, un seul cœur et une seule âme. Combien y croient? Combien y croient? Alléluia. Vraiment. Nous languissons. On peut le dire, oui, comme ça on dit, languissons, oui. Nous aspirons à ce que nous puissions voir cette harmonie parfaite dans l'Église de Jésus-Christ. Et où tout à coup, du sud, du nord, on puisse parler. Comment ça va? Ça va bien, gloire à Dieu, Dieu nous a visités. On se voit, qu'est-ce qu'on fait? On peut se voir, etc. ce sera quelque chose de spécial. Un seul cœur et une seule âme. Que Dieu nous bénisse. C'est un désir que nous devons avoir tous profondément dans le cœur. Et si ça n'y est pas, alors il y a une grosse douleur, il y a quelque chose qui est mort à l'intérieur. Et que le Seigneur puisse refaire vivre. Alléluia. J'aimerais lire quelques passages. Philippiens. Philippiens 2. Philippiens 2. Le Seigneur, qu'il mette ce désir en nous, que nous tous dans l'Église du Christ, on puisse avoir ce désir. Philippiens 2, 12. Philippiens 2, 12. Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant, en mon absence, travaillez. Dans le sens de amener à bonne fin en travaillant dans notre bas de page. Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Nous y croyons. Qu'est-ce qui doit se passer dans mon cœur, Il faut dire, Seigneur, comment je me trouve? Moi, j'aimerais avancer. Je veux avancer, être édifié. Je veux grandir dans la parfaite harmonie de Christ, dans la parole de Christ, sous la juste volonté de Christ. Vous voyez. Actes des apôtres, 26, 9. Actes 26, 9. Actes 26, 9. Ça, par exemple, c'est Paul. Lui, il travaillait pour le salut, mais, donc il rend témoignage là, devant Agrippa, devant ce gouverneur, donc il rend témoignage, et il dit au verset 9, acte 26, 9, « Pour moi donc, j'ai pensé en moi-même qu'il fallait faire beaucoup de choses contre le nom de Jésus le Nazaréen. » Vous voyez, on peut aussi travailler là, en mal, contre. Mais que Dieu nous aide à travailler pour, pas contre, mais pour. C'est important, parce que parfois, sans s'en rendre compte, on travaille contre le nom de Jésus. Matthieu 21, 28. Matthieu 21, 28. Des enseignements qu'on ne devrait jamais laisser échapper. Matthieu 21, 28, qu'on doit sceller dans nos cœurs. Matthieu 21, 28. Matthieu 21, 28. Un homme avait deux enfants. Et venant au premier, il dit, « Mon enfant, va aujourd'hui travailler dans ma vigne. » Et lui répondant, dit, « Je ne veux pas. » Mais après, ayant du remords, il y alla. Et venant au second, il dit la même chose, et lui répondant, dit, « Moi, j'y vais, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux fit la volonté du Père ? Josué 24. Josué 24, 13. Alléluia. Josué 24, 13 et 14. Et je vous donnais un pays où tu n'avais pas à travailler, et des villes où vous n'aviez point. Que vous n'aviez point bâti, et vous habitez. Vous mangez le fruit des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés. Et maintenant, craignez l'Éternel et servez-le en intégrité et en vérité. Et ôtez les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et s'il est mauvais à vos yeux de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos pères... Vous voyez ? Si je travaille. Donc, on dit travailler à notre salut. Ça veut dire qu'on est entré dans le travail du Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a ouvert le chemin, la voie. Voilà pourquoi c'est important. Je ne fais rien d'autre que ce que je vois faire mon Père. Mon Père. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Quand tu l'as assimilé, quand tu l'as cru de tout ton cœur et que tu le mets en pratique, tu travailles à ton salut. Tu es en train de marcher devant Dieu sous la volonté de Dieu. Et tu marches avec le Seigneur. Alléluia. Tu travailles à ton salut. Et aussi, dans Jean 4, 38, Jean 4, 38, on est au passage semblable, Jean 4, 38, moi, je vous ai envoyé moissonner ce à quoi vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé. Et vous, vous êtes entrés dans leur travail. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre cela, de réaliser cela. De comprendre avec son cœur. Et par la foi. Et de voir quelle est la juste et parfaite volonté de Dieu. Avant nous, il y a des gens qui ont travaillé. Ils ont aplani le sentier. Voilà pourquoi l'Église est fondée sur les apôtres et les prophètes. Voilà pourquoi la famille de Christ restera toujours sous le contrôle et l'autorité de la parole des prophètes et des apôtres. Toujours. Ça, on ne peut pas échapper à cela. Je continue la lecture. Le frère Franck ici. Dieu a révélé et déterminé sa volonté dans sa parole, qui doit s'accomplir sur la terre comme dans les cieux. Il est dit de notre Sauveur dans le chapitre 53 d'Isaïe, lequel est celui qui nous décrit le plus profondément ses souffrances et sa mort, que s'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence. S'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence. Il prolongera ses jours et le plaisir, c'est-à-dire en parenthèse la volonté de l'Éternel, prospérera entre ses mains. Dans le Notre Père, le Fils de l'homme nous enseigne la prière juste. Que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. Dans les Saintes Écritures, donc je souligne cela, dans les Saintes Écritures, l'obéissance du Fils de Dieu est opposée à la désobéissance d'Adam. La grâce fait cesser la désobéissance, mais à son tour, la désobéissance peut aussi faire cesser la grâce. Je relis. Dans les Saintes Écritures, l'obéissance du Fils de Dieu est opposée à la désobéissance d'Adam. La grâce fait cesser la désobéissance. Mais à son tour, la désobéissance peut aussi faire cesser la grâce. Alléluia. C'est vrai. Nous avons reçu la grâce pour devenir des enfants de Dieu obéissants. Aujourd'hui encore, cette parole de 1 Samuel 15, 22 et 23 est valable. Voici, écouter l'obéissance, obéir, est meilleur que sacrifice. Et prêter l'oreille, meilleur que la graisse des béliers. Car la rébellion est comme le péché de divination. Et l'obstination est comme le péché de divination. Donc, lisons-le dans la Bible ici à Samuel. Le Seigneur donne toujours des choses nouvelles. Tout nous fait toujours voir des choses importantes. Prenons encore une fois Samuel dans nos Bibles, 1 Samuel 15. Et voyons ce qui s'est passé. Afin que ce verset puisse être prononcé. Donc Saoul a désobéi. C'est-à-dire, il est sorti du droit où il devait rester, comme on l'a dit il y a peu de temps. Parce que Samuel lui avait donné un ordre précis. Et lui-même, il a été saisi de quelque chose dans son cœur, parce que son cœur était en tumulte, n'était pas dans la paix. Au lieu d'être dans le repos de la parole promise, de la parole que Dieu avait donnée à travers le prophète Samuel, comme l'enseignement que Dieu nous a donné à travers le frère Branham, le message du temps de la fin, ce que le frère Franck il nous donne à travers les prédications durant toutes ces années, tout ça c'est sorti. Mais le peuple, donc commençons au 1 Samuel 15, commençons au verset 17, voilà, 17. Et Samuel dit, donc 1 Samuel 15, à partir du verset 17. Et Samuel dit, n'est-ce pas, quand tu étais petit à tes propres yeux, tu es devenu chef des tribus d'Israël? Regarde bien. Tu étais petit à tes propres yeux, tu es devenu chef des tribus d'Israël, et l'Éternel t'a oint pour roi sur Israël. Et l'Éternel t'avait envoyé par un chemin et t'avait dit, va et détruis entièrement ces pécheurs, les Amalekites, et fais-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils soient consommés. Et au verset 20, et Saoul dit, mais j'ai écouté la voix de l'Éternel, ou j'ai obéi à la voix de l'Éternel. J'ai aussi obéi à la voix de l'Éternel. Et je suis allé par le chemin par lequel l'Éternel m'a envoyé. Et j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai entièrement détruit Amalek. Et le peuple a pris dans le butin du menu et du gros bétail comme prémisse de ce qui était voué à l'exécration, ce qui était voué à l'interdit, pour sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Et Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à ce qu'on écoute la voix, à l'obéissance de la voix de l'Éternel, à ce qu'on a lu? Pourquoi est-ce qu'il a transgressé? Qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur? Parce que c'est important, ça. Donc j'ai mis des petites notes ici. Qu'est-ce qui a prévalu dans son cœur pour qu'il change d'idée et qu'il désobéisse? Qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur? Qu'est-ce qui prévalait dans son cœur? Et qu'est-ce qui prévaut dans le cœur d'un croyant à désobéir la parole? À ne pas faire attention à la parole. Pourquoi? D'un côté, on désire. Mais il y a quelque chose qui intervient et qui le fait changer de direction. Attention. Je le dis pour nous tous. C'est important. Regardez à l'intérieur de vous-même. Il est l'heure de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. C'est important. Qu'est-ce qui a fait? Donc j'ai noté, donc je vous lis ce que j'avais noté, c'était les intérêts personnels qui avaient prévalu sur l'obéissance. Vous voyez? 1 Samuel 15 ici, 24, regardez un peu le 24. Et Saoul dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé le commandement de l'Éternel et tes paroles. Car j'ai craint le peuple et j'ai écouté leur voix. Donc j'ai écouté leur voix, vous voyez? J'ai consenti à leur voix. Vous voyez pas comment on peut, le bonisme, la peur, comment on peut être entraîné dans ces choses-là? Et on peut tomber dans le piège de la désobéissance totale envers la parole de Dieu. C'est important. Donc, qu'est-ce qu'il y avait de son cœur à Saoul? Vous voyez? Qu'est-ce qui a prévalu? Qu'est-ce qui avait plus d'intérêt? C'était son intérêt personnel. Et sans s'en rendre compte, à l'intérieur de lui, il y avait cet intérêt personnel. Ce que David n'avait pas eu. David, c'est autre chose. Vous voyez? Il y a encore un autre, verset 30. Regardez. Et Saoul dit, Donc, faites attention ici. Que Dieu nous ouvre l'entendement. Et qu'on puisse voir ce qu'il y a derrière. Et Saül dit au verset 30, j'ai péché, honore-moi maintenant, je te prie, en la présence des anciens de mon peuple, en la présence d'Israël. et retourne-t'en avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel. Vous voyez ce qu'il y avait dedans? Il avait peur de perdre la face. Il avait peur de perdre la face. La vraie obéissance dans le Seigneur, c'est si tu as choisi où tu perds la face, où tu obéis au Seigneur. N'est-ce pas? Juste, vous y êtes? Que ces paroles puissent rester et être vraiment scellées dans le cœur. Et rester dedans. Oh, je ne veux pas perdre la face, honore-moi devant le peuple. Vous voyez ce qu'il y avait dedans? De la désobéissance, parce qu'il avait désobéi. Alléluia. Quand on voit tout ça, on dit, Seigneur, garde-nous. Garde-nous du malin. Et fais que la vérité triomphe. Et que la soumission à ta volonté soit nette, claire, indépendamment de tout ce qui peut se passer. Je ne sais pas comment expliquer. Même si je peux faire du mal au peuple, parce que je ne comprends pas les choses, mais je veux rester là, fidèle à toi. Je veux rester ferme, solide. Faites attention. Ça, c'est le bon choix à faire. Donc, notre Seigneur fait chair. Il s'est nié lui-même, il s'est humilié, il s'est abaissé. Il n'a pas regardé à l'humiliation des personnes, à tout ce qui était autour de lui. Et Jésus-Christ est mort sur la croix, nu. Ils l'ont dépouillé, ils l'ont déshabillé. Je pense que nous tous, nous aurions la honte, la vergogne. Mais, alléluia. Voilà pourquoi. Toutes les autorités, toutes les puissances, dans les lieux célestes, tous ces esprits ont été dépouillés. Ils n'ont plus de puissance sur le vrai Fils de Dieu, sur la vraie fille de Dieu. Ils n'ont plus d'autorité. Ainsi dit le Seigneur de la parole de Dieu. Amen. Seul l'élu, seulement l'élu, réussira à se libérer de tous ces pièges et du piège du diable. C'est la vérité. Libérons-nous, afin qu'on puisse se soumettre à toute la parole de Dieu. Jean, il est quelle heure? Jean 11, 1, 16. Jean 1, 16. Jean 1, 16. Dans Jean 1, 16, il est écrit, car de sa plénitude, nous tous, nous avons reçu grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père. Lui l'a fait connaître. Amen, alléluia. Et Romains 5, 20. Romains 5, 20, je vous le dis, là où la loi donc est intervenue afin que la faute abondât, mais là où le péché abondait, la grâce est surabondée. Amen. Alléluia. Merveilleux. Amen. Moi, je le crois de tout mon cœur. Voilà pourquoi, comme je le disais, l'Église, c'est pas fait avec des personnes de mur. Non, c'est des élus, fils et filles de Dieu, sous le sang de Jésus-Christ. Ils appartiennent à un seul Père qui les a régénérés, en Christ Jésus, l'unique Père. Donc je vais lire Romains 5, 20. Romains 5, 20. Or la loi est intervenue afin que la faute abondât. Mais là où le péché abondait, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi aussi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. N'est-ce pas de paroles merveilleuses et précises? Amen. Est-ce que ça ne vous donne pas la foi nécessaire pour vaincre la bataille et pour obéir à toute parole de Dieu? Si on n'y arrive pas, on dit Seigneur, tu as mis le désir à l'intérieur. Dieu voit qu'il y a ce soupir d'y arriver. Et si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Et le diable va s'éloigner de toi, afin que toi, tu réussisses à obéir et à te soumettre à la parole de Dieu. Alléluia. C'est la vérité. Amen. Mais c'est le soupir qui doit être à l'intérieur. Il faut le désir. Il faut la juste connaissance. Il faut la révélation. Donc il n'y a pas de problème. On peut vaincre. La grâce règne par la justice. On peut se soumettre, on peut vaincre. Alléluia. On peut aimer comme Dieu a aimé. On peut donner comme Dieu a donné. Alléluia. Quelle grande bénédiction. Alléluia. 2 Corinthiens aussi. On connaît 2 Corinthiens 11. Deux Corinthiens onze, deux et trois. Même le premier. Je voudrais que vous supportassiez un peu de ma folie. 2 Corinthiens 11, à partir du premier verset. Je voudrais que vous supportassiez un peu ma folie, mais aussi supportez-moi, car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu. Voilà ce que est Dieu pour son fils et sa fille, pour l'élu. Il est jaloux. Il veut une obéissance totale, une soumission totale, afin qu'on puisse le servir en esprit et en vérité. Et toutes les promesses qu'il a faites dans la parole de Dieu pourront arriver dans ta vie, dans ma vie. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul mari pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. Mais je crains que, en quelque manière, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, etc., etc. Donc il y a une jalousie. Que Dieu nous fasse grâce. Je continue à lire ici. Vous voyez, derrière, ce qu'il y a derrière la désobéissance, regardez, je le répète, et je dis, ainsi dit le Seigneur dans la parole, parce qu'il connaît, il nous connaît, dans la désobéissance, il y a un motif. Si vous arrivez à saisir quel est ce motif, et à le faire remonter, et à le mettre en évidence, et à le devant Dieu, et à le défaire, au nom de Jésus-Christ, vous avez la victoire. Et l'obéissance viendra dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? Alléluia. Mais il faut réussir à le faire sortir, parce que derrière la désobéissance, il y a toujours quelque chose, il y a un piège derrière. Toujours un piège derrière. Que Dieu nous aide, qu'il nous fasse grâce. Donc je continue à lire. Ève rend elle-même témoignage qu'elle fut séduite. Genèse 3:3. Cependant, c'est par la désobéissance que tomba Adam. C'est la raison pour laquelle il est écrit qu'en Adam, tous meurent. 1 Corinthiens 15:22. Le commandement que le Seigneur Dieu donna dans Genèse 2:9, j'avais noté 2:9, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, était adressé à Adam, car en ce temps-là, Ève était encore en lui. Vous y êtes? Donc, dans Genèse 2:9, Dieu parlait à Adam, et au verset 18, Dieu dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et là, il y a Ève qui est sortie de sa côte. Et donc, il a séparé Ève, la femme, l'épouse, de Adam. Mais Dieu avait parlé à Adam est là à ce moment-là, ils étaient ensemble. C'est-à-dire, elle était encore dans le sein d'Adam, en lui, on peut dire. Dans la côte d'Adam, si vous, comme vous voulez. Ils étaient encore un. Mais Dieu avait parlé à Adam. Il s'était adressé à Adam. Car en ce temps-là, Ève était encore en lui. Lorsque le serpent la séduisit, elle tomba sous l'autorité de Satan, comme si elle avait été ensorcelée. Lorsqu'elle prit autorité sur Adam, elle était déjà une créature séduite, trompée. Alors que c'est en connaissance de cause qu'Adam enfreignit le commandement de Dieu lorsqu'il accepta la proposition de sa femme. Frère Branham répète plusieurs fois dans la prédication la voix de Dieu dans ces derniers jours. Donc vous pouvez écouter ça, c'est spécial. Aussi longtemps qu'Adam écouta la voix de Dieu, tout était bien. Au moment où il écouta la voix de sa femme, tout fut perdu. Ça, c'est vrai. Donc, rappelez-vous, Abraham, prends garde, à travers elle, vous voyez la patience? La promesse devait être que c'est Sarah qui devait mettre au monde le fils promis, que Dieu avait promis. Et après 25 ans, elle est venue, vous voyez. Mais elle dit, mais prends garde. Et à travers elle, je pourrais avoir cette progéniture. Mais c'était pas comme ça, vous voyez. Voilà pourquoi Dieu ne pourra jamais, en Jésus-Christ, Dieu ne pourra jamais écouter l'Église, juste quand elle est en dehors du contrôle, quand elle est hors place, hors jeu, et quand elle n'est pas soumise à la parole de Dieu. Vous voyez, vous comprenez? Vous voyez le rapport? Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà que c'est important. Vous voyez que c'est important. Est-ce que vous êtes fatigué? Vous voulez qu'on arrête? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous, si vous êtes... Levez la main. Donc c'est pas tout le monde, une partie est fatiguée. Jérémy, lui, donc voilà, une partie est fatiguée. Donc je ne sais pas si je pourrais. Donc je vais terminer ce petit sujet-ci. Donc je continue à lire ici. Nous voyons dans les Écritures deux commencements. Le premier concerne la création naturelle terrestre, avec Ève, laquelle est appelée la mère de tous les vivants, dans Genèse 3, 20, bien que leur mort est certaine. Ève tomba sous l'influence du méchant et reçut la semence du serpent. Le second commencement eut lieu avec Marie, laquelle crut, obéit et dit, « Voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1, 38. Elle a reçu la semence divine, et c'est ainsi que la parole devint chair. Par son obéissance, le Fils de Dieu vint dans le monde en tant que premier-né, dans le but de détruire l'œuvre de tromperie de Satan, afin de faire luire la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. 2 Timothée 1, 10. On va lire ceci, et puis on va s'arrêter. 2 Timothée 1, 10. Alléluia. 2 Timothée 1, 10. On va commencer par le verset 9, 2. Timothée 1, 9. Qui nous a sauvés. Il nous a appelés d'un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa propre grâce qui nous a été donnée dans le Christ, Jésus, avant les temps des siècles, avant la fondation du monde, mais qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a annulé la mort et qui a fait luire la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. pour lequel moi, j'ai été établi prédicateur et apôtre, docteur de nations. Vous voyez, comme il est écrit dans 1 Jean, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Alléluia. Vous y croyez? Moi, je crois que oui. On croit tous. Fermement, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Que Dieu soit remercié. Nous allons terminer. Nous continuerons la suite. Petit à petit, nous allons terminer petit à petit. Je crois que vous êtes fatigués. Que le Seigneur nous bénisse avec puissance, avec force. Que ce soit scellé dans le cœur. Que chaque enseignement prenne forme scripturaire dans nos cœurs, comme Dieu le veut. Que nous puissions nous arrêter et considérer pleinement son plan envers nous. Et comment est-ce qu'il nous préserve de tout mal? Malgré ce Covid et tout ce qu'il y a autour de nous, on est toujours là. Il y a aussi des requêtes de prière, c'est vrai. Il y a des besoins, c'est vrai. Mais lui s'en occupe. Lui, Dieu, Jésus le Seigneur, l'intercesseur, celui qui intercède pour nous à la droite de Dieu. Il s'en occupe. Et il continue de s'en occuper. Il ne va laisser personne derrière. Il ne va pas permettre qu'aucun reste derrière. Alléluia. Que Dieu soit loué et béni. Qu'il soit loué et remercié. On va toujours plus profondément. On considère les choses toujours plus en profondeur. Lorsqu'on regarde autour de nous, on voit les manquements. Je peux le dire. On peut même dire le manque de foi. Il est vrai qu'on n'a pas encore, on n'est pas encore ce qu'on devrait être, mais il y a quelque chose que Dieu est en train de nous donner. Il est en train de nous préparer, je le crois de tout mon cœur. Il est en train de nous préparer, il est en train de nous former en nous donnant la foi originale, authentique, pour être enlevée. Vous y croyez? Amen. Et chaque chose revient à sa place et restaurée. L'amour fraternel, l'amour les uns pour les autres. Un seul cœur, une seule âme, la soumission, l'obéissance, alléluia, tout ça. Tout ça, ça fait partie de l'ensemble du plan de Dieu, pour pouvoir nous former à son image et à sa ressemblance. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je crois que vous appréciez tout cela comme moi j'apprécie aussi. N'est-ce pas? Amen. C'est difficile, c'est un peu lourd, mais je crois que le Seigneur nous bénit. Avec tous les passages des Écritures, avec ce que Dieu nous donne. Il nous fait aller de l'avant. Amen. Qui veut nous présenter devant Dieu? Jérémie, tu es resté debout jusqu'à maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Nous voulons te remercier, Seigneur, qui t'écoutait ce soir à travers tes riches et les renseignements, Seigneur, dans lesquels, dans ces passages, Seigneur, tu as pu nous parler, Seigneur, tu as pu encore nous encourager, Seigneur. Et Seigneur, en ce moment, tu sais, Seigneur, que nous avons vraiment besoin d'encouragement. Tu as besoin, Seigneur, d'être vraiment soutenu par la foi, Seigneur. Et Seigneur, je sais que tu le fais. Comme l'a dit le frère, c'est vrai, nous ne comprenons pas tout, nous ne saisissons pas tout. Mais en même temps, Seigneur, nous devons, Seigneur, entièrement nous abandonner à toi, simplement, et rester tranquille, Seigneur. C'est ainsi que je te remets toutes choses entre tes mains. Oui. Pour chaque frère et sœur ici présent, pour ceux qui ne sont pas aussi présents, que nous te laissons le soin, Seigneur, de pouvoir œuvrer dans chacun d'entre nous pour la préparation, Seigneur, pour que nous soyons, Seigneur, chaque jour plus près de toi. Seigneur, vraiment accorde-nous ta grâce, ta miséricorde, encore aujourd'hui, Nous avons pleinement confiance, Seigneur. Nous fixons notre espérance sur toi, Seigneur.
Alléluia.
Et nous avançons chaque jour, Seigneur.
Oh,
et toi, Seigneur, qui peux tout, nous ne pouvons rien par la chair, Seigneur, et par l'Esprit, Seigneur, tout par l'Esprit. Ton Saint-Esprit. Ainsi, je te remets chacun entre tes mains ce soir, que tu puisses accorder une bonne nuit de sommeil à chacun, dans les travails. Renouvelle chacun, les forces de chacun. Tu les renouvelles, chaque matin.
Alléluia.
Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen.
Amen.
Merci Seigneur Jésus. Si quelqu'un veut prier aussi, encore. Merci Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Il y a un problème de micro.
Nous
te remercions, Seigneur Jésus, de la façon dont tu prends soin de chacun d'entre nous, de comment ta parole est un baume pour nos âmes. C'est quelque chose qui nous pousse à regarder au-delà des ténèbres qui nous entourent et qui nous fait voir la lumière. Tu viens, Seigneur, briser les ténèbres et tu nous apportes cet espoir, cette lumière d'espérance. Tu nous as donné vraiment la foi et nous voulons l'exercer, Seigneur, comme quand nous l'avons entendu. Nous voulons la mettre en pratique. Merci pour ce que tu as accompli pour nous, de te rendre grâce pour cela. Tout est bon, Seigneur, de ce que nous avons entendu. Tout est bon à mettre en lumière. Tout est bon pour mettre en pratique. Donne-nous la force, la conviction ferme et profonde dans nos cœurs. Que, Seigneur, nous croyons. Nous sentons en nous que toute ta parole est la vérité. Même si nous sommes faibles, nous sommes parfois découragés, mais il y a quelque chose, et même s'il y a des choses qui nous dérangent, le fait qu'il y ait la lumière et la clarté qui viennent. Merci encore pour ce soir. Que ton épouse, Seigneur, puisse s'élever jusqu'au ciel, même si on est encore sur cette terre, mais qu'on puisse voir au-delà des choses et qu'on puisse accomplir seulement ta volonté, pas faire plaisir aux hommes ni nos propres plaisirs. On a vu l'exemple de Saül, mais tu connais toutes choses. Et tu as pris soin de chacun d'entre nous. Même si nous sommes fatigués, Seigneur, mais l'esprit est toujours prompt. Tu sais qu'il est toujours disposé à écouter et à recevoir. Seigneur, donne-nous encore le repos matériel, Seigneur, pour ceux qui travaillent. Nous sommes tous fatigués, mais aide-nous, Seigneur. Tu connais toutes choses. Et tu sais que nous tous, nous avons besoin de soutien. Nous te remercions. Accompagne-nous, veille sur nos familles, nos bien-aimés. Tu connais toutes choses dans la profondeur de nos cœurs. Nous te remercions dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te remets encore tous les frères et sœurs qui sont reliés et tous ceux qui sont avec nous en esprit. Merci de nous avoir encore reliés. Même si nous sommes encore dans nos maisons, nous sommes unis en toi. Nous te remercions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse tous. Amen.